Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'économie. Aujourd'hui encore, nous avons rendez-vous avec la mort.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Les progrès de la médecine et l'enrichissement de nos sociétés ont permis depuis deux siècles un formidable allongement de la durée de la vie. À l'époque des Lumières, la moitié d'une génération mourait avant l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, les femmes vivent en moyenne jusqu'à 85 ans, contre 79 ans pour les hommes. Des jours gagnés sur la mort, qui ne profitent cependant pas à tout le monde. Les inégalités face à la dernière heure persistent et la science économique peine encore à s'emparer du problème. Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des inégalités devant la mort en compagnie de Grégory Pontière, professeur à l'université Paris-Est Créteil, chercheur à l'école d'économie de Paris et auteur de cet ouvrage, L'économie du vieillissement, paru à la Découverte. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet.
La caractéristique de notre société tout à fait contemporaine, c'est que, du point de vue de la société, je ne dis pas que ce soit vrai du point de vue de l'individu, mais du point de vue de la société, elle ne supporte pas l'idée même que la mort existe. C'est surtout qu'elle a perdu le contrôle de la mort. Premièrement, parce qu'elle a perdu l'idée de péché. Il y a une relation certainement très profonde entre l'idée du mal en général, pas seulement du péché, mais de la souffrance physique, et l'idée de la mort. La mort a été, pendant des millénaires, liée à l'idée de mal. Alors, si vous supprimez complètement le mal, non seulement le mal moral ou le péché, mais aussi le mal physique ou la souffrance, eh bien, la mort n'est plus qu'un scandale impensable, et que devant le scandale, il n'y a que deux réactions possibles, ou bien de faire comme si la chose n'existait pas, ou bien alors de la réduire à un état d'insignifiance. Et ce sont les deux réactions qui existent en face de la mort aujourd'hui.
Bonjour Grégory Pontière.
Bonjour Tiphaine.
Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. La mort est un scandale impensable, comme le dit l'historien Philippe Ariès. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, mais j'en pense que effectivement, dans ses essais sur l'histoire de la mort en Occident, Philippe Ariès a mis en lumière des changements d'attitude face à la mort au cours des siècles. Et c'est vrai qu'on est passé d'une situation où il y avait une grande familiarité avec la mort. Hein. Philippe Ariès parle de cette la mort familière comme première étape dans ses essais sur l'histoire de la mort en Occident. Et effectivement, pendant très longtemps, il y avait beaucoup de décès, la mortalité était très forte, comme vous l'avez signalé dans votre introduction. On avait une grande partie des cohortes qui décédaient avant d'avoir atteint l'âge adulte.
Les cohortes, c'est le terme technique pour parler de génération.
Oui, l'ensemble des personnes nées
à un âge donné.
La même année, oui. Donc, si on revient sur, par exemple, Richard Cantillon, mais c'est sur la nature du commerce en général, Cantillon. Donc là, on est vers 1730 et il nous dit qu'à peu près la moitié des personnes qui naissent, en fait, n'atteignent pas l'âge de 17 ans. Donc là, on est vers 1730, 1750. Donc, on avait donc une très forte mortalité. Et donc, du coup, il y avait une familiarité avec la mort, on peut le dire. Et cette familiarité, évidemment, a disparu progressivement.
Elle a commencé à disparaître à la fin du XVIIIe siècle. Elle devient alors un sujet d'avantage, un sujet d'horreur. Et les cimetières deviennent des lieux à fuir. Ça, c'est ce que nous apprennent les travaux de Paul Ariès, de Philippe Ariès.
Oui, donc Philippe Ariès décrit une évolution donc progressive, avec tout d'abord une sorte d'individualisation de la mort. Donc on est passé de la mort familière à ce qu'il appelle la mort de soi. Donc il y a une individualisation de la mort. Donc Philippe Ariès explique notamment qu'au départ, le jugement dernier concernait toute l'humanité, et c'était à la fin de toute la vie. Et progressivement, le jugement dernier a porté sur les individus et à la fin de leur propre vie. Donc on est vraiment passé d'une situation de la mort pensée collectivement vers une mort individuelle. Une sorte d'individualisation de la mort. Et après cela, la troisième étape, ça a été effectivement un passage vers la mort de l'autre. Et donc ça, c'est plutôt au XIXe siècle. Et au XXe siècle, effectivement, Philippe Ariès met en avant l'émergence de la mort taboue. Donc effectivement, dans la société capitaliste du XXe siècle, il est important d'être en bonne santé, souriant, bien productif, et on ne veut pas trop parler de la mort. Et forcément, c'est devenu aussi un tabou parce que, avec les progrès de la médecine, la croissance d'espérance de vie dont vous avez parlé, forcément, la mort est devenue un événement moins courant avec lequel on a perdu une certaine familiarité.
Et en même temps, la mort est un sujet qui est exploré, étudié par les historiens, par les sociologues, mais c'est peut-être moins vrai pour la science économique. Vous diriez que la mort est un impensé pour les économistes ?
Alors c'est un peu un paradoxe, parce que les économistes s'intéressent à la rareté des ressources, et à travers l'histoire de la pensée économique, si on revient aux travaux de Malthus, de Smith, de Marx, il y a toute une réflexion autour de la mort. Mais c'est vrai que on a un peu eu tendance à travers le temps à mettre cette ressource un peu de côté, même pas trop en parler, ce qui est un peu un paradoxe, parce que quelque part le temps de vie, c'est la ressource la plus rare, la plus fondamentale, quelles que soient les choses qu'on veut réaliser dans sa vie. Mais on a besoin de temps pour arriver à les réaliser, quels que soient ses objectifs, ses rêves, on a besoin de temps. Et donc, moi, en tant qu'économiste, je m'intéresse effectivement à la rareté, donc je suis bien économiste, mais je m'intéresse surtout à la rareté du temps de vie. Donc je m'intéresse à la rareté de cette ressource-là qui est singulière. Alors c'est vrai que c'est un peu un truisme de parler, de dire voilà, on va tous décéder un jour ou l'autre, comme Simone de Beauvoir l'écrit dans La vieillesse. Mourir prématurément ou vieillir, il n'y a pas d'autre alternative. Donc effectivement, c'est une évidence pour nous tous. Mais en même temps, partir de cette évidence, partir de cette chose extrêmement basique, c'est aussi une manière de revenir aux fondamentaux. Et pour la science économique, je crois aussi, de revenir vers la construction d'une pensée économique et d'une société plus humaine. Donc repartir de choses basiques, de choses très simples, pour à partir de là essayer de repenser la rareté plus profondément. En tout cas, c'est un de mes objectifs.
Parmi les économistes qui ont pensé la mort, on peut tout de même citer Malthus, que vous avez évoqué. En effet, vous considérez que notre économie est encore très malthusienne. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire, en gros, que voilà, Malthus décrivait une société où effectivement la rareté des ressources allait constituer une contrainte pour la taille de la population. Il développait surtout donc son fameux principe de population. Alors aujourd'hui, bon, il est très discuté, il est très débattu, puis on sait qu'il a une historicité qui n'est plus vraie dans les économies contemporaines. Mais bon, quand Malthus écrit son essai sur le principe de la population, qui a été publié anonymement en 1798, il nous dit que voilà, en général, il y a un déséquilibre entre la capacité d'une société à produire des humains et la capacité d'une société à produire des moyens de subsistance. Et pour lui, la première capacité est beaucoup plus forte que la seconde. Et donc, il va y avoir des mécanismes de correction qui vont se mettre en place. Et parmi ces mécanismes qu'il appelle les population checks, ou ces mécanismes de correction, on avait ce qu'il appelait la correction positive. C'était pas du tout une correction positive dans le sens qu'elle était agréable, mais non, c'était dans le sens qu'on pouvait l'observer. Et en fait, ça consistait dans les décès prématurés au sein des classes les plus pauvres, de par des famines, de par des maladies. Et donc, effectivement, du temps de Malthus, il y avait une surmortalité très importante dans les classes les plus pauvres. Malthus interprétait cela à la lumière de son principe de la population. Alors, on n'est pas du tout obligé d'avoir cette interprétation. Et Marx, d'ailleurs, s'est érigé contre cette interprétation. Pour Marx, ces décès prématurés, cette surmortalité au sein des classes les plus pauvres, c'est avant tout un problème de répartition. C'est un problème d'organisation sociale. C'est pas qu'il y a une espèce de surpopulation absolue. Et Marx, d'ailleurs, s'opposait au principe de population en expliquant que ce principe n'avait aucune validité. Il était juste quelque chose qu'on observait dans l'économie capitaliste, étant donné une certaine répartition des ressources.
Mais ce qu'on en a retenu peut-être, c'est le fait que, effectivement, les personnes les moins riches sont celles qui vivent le moins longtemps. Ça, c'est ce que Malthus nous a appris et qui est encore vrai aujourd'hui.
Non, oui, c'est ça qui est assez choquant, effectivement, c'est que on est quand même plus de deux siècles après Malthus. Et quand on regarde une étude de l'INSEE de 2018, on se rend compte qu'en France, les 5% les plus pauvres au sein de la population masculine vivent en espérance de vie à la naissance de 13 ans plus petite que les 5% les plus riches au sein de la population. Donc on a d'un côté 71 ans pour les 5% d'hommes les plus pauvres et 84 ans pour les plus riches. Alors pour les femmes, on a un écart de seulement, si je puis dire, 8 années, mais en fait c'est quand même déjà énorme. Et donc vous imaginez, on est 2 siècles après Malthus, et malgré tout cela, on assiste encore aujourd'hui en France à des écarts aussi importants en termes d'espérance de vie. Donc ça pousse à réfléchir. Alors bien sûr, on a un état-providence, on n'est plus dans la même société que celle de Malthus et de Marx, mais on a quand même, lorsqu'on regarde les statistiques, une surmortalité très importante au sein des classes les plus pauvres, et ça doit interroger les économistes, et ça doit aussi interroger le monde politique, je crois, le fait qu'il existe encore des écarts très importants en France.
Alors ces inégalités, en effet, on va y revenir, mais d'abord, il faut peut-être évoquer ces progrès très importants qui ont eu lieu en termes d'espérance de vie depuis 2 siècles. Grégory Pontière, les démographes parlent d'une rectangularisation de la courbe de vie. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, en fait, on parle effectivement d'une rectangularisation de la courbe de survie, dans le sens où pendant, je dirais, une période qui concerne surtout, je dirais surtout le XXe siècle, ça a déjà un peu commencé au XIXe siècle, mais c'est surtout au XXe siècle. En fait, on a assisté pendant très longtemps, au moins jusqu'aux années 80, à une sorte de réduction de la variance sur la durée de la vie. Donc en gros, il y a eu une sorte de plus grande concentration des âges au décès.
De plus en plus de gens qui meurent tard.
Voilà, c'est-à-dire en gros, auparavant, 50% d'une cohorte décédait sur un intervalle d'âge de quoi 45-50 ans. Et aujourd'hui, on sait que voilà, on a 50% d'une cohorte qui va décéder entre 65 et enfin 70 et 90 ans. Donc on a une concentration beaucoup plus forte. Et donc effectivement, l'intervalle d'âge, sur 25 ans, on peut avoir effectivement le décès de la moitié d'une cohorte.
Et ça, c'est lié d'abord à la baisse de la mortalité infantile et ensuite à l'allongement de la durée de la vie après 80 ans ?
Alors, il y a plusieurs facteurs, évidemment. Bon, il faudrait refaire toute l'histoire de l'évolution de la mortalité. Donc, la mortalité a commencé à baisser au début du 19e siècle, et ça a d'abord concerné les enfants, mais pas les nouveau-nés, hein, les enfants plutôt de 5, 6 ans, 7, 8 ans, etc. Et puis progressivement, la baisse de la mortalité a concerné des groupes d'âge de plus en plus, des personnes de plus en plus âgées, donc les gens dans la vingtaine, dans la trentaine, etc. Alors pour ce qui est de la mortalité des nouveau-nés, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est durant le 20e siècle que la mortalité durant la première année de vie a fortement baissé. Et donc, vous voyez, il y a eu une croissance d'espérance de vie, mais derrière cette croissance, en fait, on a des évolutions successives, et c'est pas les mêmes groupes d'âge qui ont bénéficié des mêmes gains en termes de survie. Alors, c'est vrai que depuis les années 60-70, effectivement, les gains en termes de survie sont concentrés, donc le recul de la mortalité est vraiment concentré sur les âges les plus élevés, donc au-delà de 60 ans, 70 ans, etc. Alors vous avez parlé de rectangularisation, mais c'est important de dire quand même qu'à partir des années 80-90, on assiste à une sorte de dérectangularisation, c'est-à-dire que la courbe de survie, pour parler un peu en termes techniques, mais qui montre la proportion d'une cohorte qui atteint les différents âges de la vie, la courbe de survie se déplace plus vers la droite aux âges élevés, et donc ça s'étire un petit peu, donc ça veut dire en gros qu'il y a une hausse des inégalités, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu pendant très longtemps une concentration, mais en même temps, on a un processus de déconcentration lors des 30 dernières années, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même encore des inégalités importantes. Donc c'est important de faire la distinction entre ces différentes évolutions, parce que quand on regarde juste l'évolution de l'espérance de vie, finalement c'est une sorte de moyenne, une espérance mathématique de la durée de vie qui cache toute une série de tendances.
C'est pour ça qu'il y a peut-être un problème de méthodologie là-dedans, effectivement. Est-ce qu'il faut regarder l'évolution de la durée moyenne de la vie, qui est l'espérance de vie, ou plutôt les probabilités d'atteindre différents âges de la vie ?
En fait, il faut regarder les deux, c'est-à-dire que l'espérance, ça vous donne le premier moment de la distribution. En tout cas, bon, les espérances de vie périodiques nous donnent une espérance mathématique de la durée de vie conditionnellement aux probabilités de décès du moment. Donc en gros, on additionne toutes les durées de vie possibles de 0 année jusqu'à 115 années et on pondère ça par la probabilité d'occurrence de cette durée de vie. Donc on a une sorte de moyenne, comme vous l'avez très bien dit. Mais évidemment, c'est une moyenne et ça cache une forêt, ça cache des inégalités, ça cache beaucoup de choses. Et donc effectivement, il faut aussi regarder la distribution des âges au décès. Et il faut aussi regarder des données beaucoup plus désagrégées, comme nous l'avons fait, comme nous avons parlé de l'espérance de vie en fonction du revenu, pour voir que derrière ces moyennes, il y a des inégalités très importantes et qui sont persistantes. Ce ne sont pas des inégalités qui disparaissent.
Alors nous vivons plus longtemps, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais à quel prix cette vie est-elle plus longue? Je vous propose d'écouter un extrait de la lettre à Ménécée, adressée par Épicure à l'un de ses disciples, une lettre qui nous arrive tout droit du 3e siècle avant Jésus-Christ.
De même que ce n'est pas toujours la nourriture la plus abondante que nous préférons, mais parfois la plus agréable, pareillement ce n'est pas toujours la plus longue durée qu'on veut recueillir, mais la plus agréable. Quant à ceux qui conseillent aux jeunes gens de bien vivre et aux vieillards de bien finir, leur conseil est dépourvu de sens, non seulement parce que la vie a du bon, même pour le vieillard, mais parce que le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. On fait pis encore quand on dit qu'il est bien de ne pas naître, ou, une fois né, de franchir au plus vite les portes de l'Hadès. Car si l'homme qui tient ce langage est convaincu, comment ne sort-il pas de la vie? C'est là, en effet, une chose qui est toujours à sa portée, s'il veut sa mort d'une volonté ferme. Que si cet homme plaisante, il montre de la légèreté en un sujet qui n'en comporte pas. Rappelle-toi que l'avenir n'est ni à nous, ni pourtant tout à fait hors de nos prises, de telle sorte que nous ne devons ni compter sur lui comme s'il devait sûrement arriver, ni nous interdire toute espérance, comme s'il était sûr qu'il dût ne pas être.
Grégory Pontière, une vie bonne, selon Épicure, ce n'est pas nécessairement une vie longue, mais une vie sans souffrance. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Effectivement, pour Épicure, le sage ne doit avoir peur ni de mourir, ni de vivre. Et donc effectivement, le plaisir est le principe et la fin de la vie pour Épicure. Et effectivement, quand on lit Épicure, il nous dit quelque part que la mort n'est rien pour nous. Alors c'est difficile à entendre cela, mais le raisonnement d'Épicure est le suivant. En fait, pour Épicure, tout bien ou tout mal, en fait, est contenu dans des sensations. Tout est une question de sensations.
Et la mort est absence de sensations.
Exactement. C'est-à-dire que la mort est privation de sensations. Et donc, par ce raisonnement, elle ne peut être ni bonne ni mauvaise. Elle doit nécessairement être neutre, en tout cas pour la personne qui est concernée. En gros, lorsque la personne est vivante, elle n'est pas concernée par la mort. Et puis quand la mort se présente, eh bien, physiquement, elle n'est plus là. Elle ne ressent plus rien. Et donc, pour Épicure, la mort est donc quelque chose de neutre. Il ne faut pas la craindre.
Mais ça nous interroge sur la qualité de la vie, Grégory Pontière. Et on parle de plus en plus de l'espérance de vie en bonne santé, qui serait de 64 ans pour les femmes et de 63 ans pour les hommes en France. On est loin des 85 et 79 ans lorsqu'on ne prend pas en compte ce critère de en bonne santé.
Oui, alors effectivement, on peut construire toute une série d'indicateurs pour essayer de capturer davantage la qualité de la vie, la dimension qualitative, et pas juste effectivement une dimension purement quantitative. Non, moi j'avais envie de revenir un peu quand même sur une critique de ce raisonnement d'Épicure, parce que en tant qu'économiste, on ne va pas considérer que la mort est neutre. On ne va pas considérer que ce n'est ni un bien ni un mal.
Justifie a posteriori les inégalités, finalement,
voilà.
Épicure.
Oui, enfin, je ne mettrai pas cela, évidemment, au 3e siècle avant notre ère. Vous voyez bien qu'il ne pouvait pas anticiper, se représenter les choses, etc. On est bien avant Malthus et bien avant tout ça. Mais c'est vrai que si on le prend au pied de la lettre, on a envie de dire, ben voilà, si finalement la mort est neutre, on ne doit pas en avoir peur, elle n'est rien pour nous. Et bien effectivement, on s'attendrait un peu à relativiser ces questions d'inégalité de durée. Alors moi, évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette lecture et je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que toute une série de philosophes au XXe siècle sont revenus sur les travaux d'Épicure pour finalement nous expliquer qu'en fait, non, la mort n'est pas neutre. La mort n'est pas neutre. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas neutre? Je vais peut-être prendre un peu de temps pour donner le raisonnement. Je vais me référer aux travaux de John Broom, qui est un philosophe britannique, qui a été pendant longtemps professeur de philosophie morale à l'université d'Oxford, en Grande-Bretagne. Et John Broom a écrit un traité en 2004 qui s'intitule « Weighing Lives ». Alors, je suis peut-être pas... Mon anglais est un peu parisien, je suis désolé pour ça. Mais en gros, on traduirait ça par « peser les vies », hein, ou « réfléchir à la valeur de la vie ». Alors, il n'a malheureusement pas été traduit en français à ce jour, mais je peux quand même vous donner le raisonnement de Broom, parce qu'il revient sur ses travaux d'Épicure, sur la question de la neutralité ou pas de la mort. Et Broom nous explique qu'en fait, la mort n'est pas neutre. Et là où il y a un problème dans le raisonnement d'Épicure, c'est en fait qu'il réduit le bien ou le mal à une question de sensation. Il n'y a que les sensations qui importent. Et Broom nous dit, voilà, les sensations sont peut-être importantes pour déterminer ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, mais on ne peut pas réduire le bien ou le bien-être à une simple question de sensation. Et donc le raisonnement de Broom est le suivant, pour lui un événement est mauvais pour une personne, tout simplement si la personne s'était mieux portée en l'absence de cet événement. Et donc du point de vue d'une vie entière, si une personne voilà vient à décéder, ça va l'empêcher de réaliser toute une série de choses dans sa vie, de poursuivre des objectifs, de faire plein de choses. Et donc ça, c'est un mal en soi. Alors bien sûr, la personne qui décède n'est plus là pour en souffrir. Bien sûr, elle n'a pas la sensation de cela. Mais pour Broom, il est très possible qu'un événement vienne détériorer la situation d'une personne, même si ça ne l'affecte à aucun moment dans sa vie, tout simplement en raccourcissant la durée de sa vie.
D'où l'intérêt et la nécessité de penser les inégalités et les différents facteurs d'inégalité face à la mort. Et là-dessus, Grégory Pontière, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des inégalités de genre, pour commencer, face à la mort, inégalité entre écart entre hommes et femmes qui tend à se resserrer lentement aujourd'hui.
Oui, alors ça tend à se resserrer lentement. Je crois qu'en France actuellement, ça l'espérance de vie à la naissance pour les femmes est d'à peu près 85 années et demie. Et pour les hommes, c'est un peu moins de 80 années. Donc on a un écart quand même de 5 années et demie. Alors évidemment, il a en partie des causes biologiques. Ah, ça c'est clair, mais il y a aussi des composantes sociales, et on le sait parce qu'on peut voir dans les pays nordiques, par exemple, l'écart d'espérance de vie à la naissance entre les hommes et les femmes est plus petit. Hein, il peut être parfois de 3 années ou quelque chose comme ça, donc on est quand même sur un écart 2 fois plus petit, ou en tout cas plus petit. Donc ça veut dire à nouveau que voilà, derrière ces statistiques d'espérance de vie, c'est ça, c'est pour ça moi que je m'intéresse à ces questions démographiques, c'est parce qu'en fait on se rend compte très souvent que des indicateurs économiques purs passent à côté d'une grande partie des choses. Et vous voyez des statistiques qu'on a vues tout à l'heure qui concernent les écarts d'espérance de vie selon le niveau de revenu. Eh bien, ça nous dit énormément de choses sur le fonctionnement de notre société. Ça nous dit beaucoup de choses aussi sur ses dysfonctionnements. Parce qu'a priori, l'État-providence, l'assurance santé, voilà, tout le monde a priori a accès aux soins, soins de bonne qualité. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on voit nominalement. Mais quand on réalise au final que les 5% les plus pauvres ont une espérance de vie à la naissance de 13 ans plus petite, en tout cas si on regarde des hommes...
Ou que les hommes cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que donc ces hommes cadres qui vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers, c'est un chiffre stable, ces 6 ans, depuis une vingtaine d'années. Donc ce qu'on voit, c'est que ces inégalités, face à la mort, elles ne reculent pas.
Oui, il y a une sorte de persistance, et cette persistance des inégalités face à la mort devrait nous interroger. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir les conséquences de tout cela, parce que ce sont des moyennes, alors ce sont des moyennes pour les groupes, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au final, voilà, il y a une rareté du temps de vie. Ce temps de vie n'est pas distribué de manière égale dans nos sociétés, alors qu'on est quand même dans des sociétés ouvertes et qui essaient d'être égalitariennes, en tout cas qui font des efforts dans cette direction-là. Et on voit bien qu'on est très loin du compte. Donc ça, je crois que c'est important. Donc cette ressource qui est la ressource la plus fondamentale, indispensable pour réaliser ce que l'on veut réaliser dans sa vie, eh bien, on voit qu'elle est très inégalement répartie.
Et vous soulignez un aspect important qui m'a interpellée quand je préparais cette émission, c'est le fait que comme les personnes les plus pauvres meurent plus jeunes, ça a un impact sur la mesure de la pauvreté. On parle des missing poor, des pauvres manquants.
Exactement. En fait, lorsqu'on commence à regarder de plus près les statistiques de mortalité et le lien entre la mortalité et le revenu, et j'ai eu l'occasion de le faire avec mes collègues Mathieu Lefebvre de l'Université de Strasbourg et Pierre Pestiot de l'Université de Liège, que je salue au passage parce que tout ça, ce sont des travaux, ce sont des aventures collectives. Lorsqu'on regarde de plus près ces données sur la mortalité en fonction du niveau d'éducation, en fonction de l'activité professionnelle ou en fonction du revenu, on se rend compte que ces écarts de mortalité ont des effets sur la mesure de toute une série de grandeurs économiques. Et notamment, comme vous l'avez signalé, un effet sur la mesure de la pauvreté. Car en effet, à partir du moment où les personnes les plus pauvres, les plus défavorisées, font face à une surmortalité, elles ont tendance à disparaître des populations étudiées plus rapidement.
Elles ne sont plus comptabilisées.
Exactement, puisqu'elles ne sont plus là. Et donc, lorsqu'on regarde...
On sous-estime la pauvreté.
Exactement, lorsqu'on regarde la pauvreté à 60 ans, eh bien, effectivement, on a un chiffre. Alors évidemment, c'est un comptage sur les personnes qui sont encore là, mais on voit bien que ce chiffre cache une sorte de mécanisme de sélection par le revenu, qui est quand même problématique, parce qu'on voit bien que justement, si on mesure la pauvreté, c'est pour essayer de voir un peu les problèmes qui sont présents dans notre société. Et cette mortalité différentielle selon le revenu, elle a tendance à abaisser le taux de pauvreté par une sorte de mécanisme de sélection. Et donc ce biais des pauvres manquants est un biais important, et surtout c'est un biais qui vient polluer les comparaisons de pauvreté entre les pays. Effectivement, dans un papier avec les deux co-auteurs que j'ai mentionnés, donc Mathieu Lefebvre et Pierre Pestiot, nous avions montré que, par exemple, le taux de pauvreté des plus de 60 ans au Portugal, donc tel qu'on le calcule d'habitude, était plus élevé que le taux de pauvreté des seniors en Estonie. Mais une fois qu'on a fait la correction pour les pauvres manquants, une fois qu'on a essayé de corriger ce biais lié à la mortalité différentielle selon le revenu, eh bien on avait l'inverse. On avait en fait que la pauvreté des seniors était plus faible au Portugal qu'en Estonie. Alors d'où est-ce que ça vient ce problème ? Ça vient simplement du fait qu'en Estonie, on avait un écart d'espérance de vie à 60 ans, ou à 50 ans, je ne me rappelle plus, mais qui était d'environ 10 années entre les plus riches et les plus pauvres, alors qu'au Portugal, il était beaucoup plus petit. Et donc forcément, si vous avez un mécanisme de sélection par le revenu qui est très très fort, ça va abaisser les taux de pauvreté aux âges élevés. Et on en arriverait à des conclusions paradoxales de dire, voilà, la pauvreté des seniors est plus petite en Estonie qu'au Portugal, alors que c'est juste qu'au Portugal, il y a un état-providence, un accès aux soins qui est plus important. Donc on voit qu'effectivement, prendre en compte la mortalité différentielle selon le revenu, c'est très important aussi pour mesurer la pauvreté.
Alors justement, sortons un peu des indicateurs, si vous le voulez bien, Grégory Pontière, pour entendre un témoignage, celui de l'écrivain Édouard Louis, qui, dans son roman « Qui a tué mon père ?», dénonce les mécanismes de domination à l'œuvre dans notre société. Voilà ce qu'il écrit en s'adressant justement à son père ouvrier. Tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce. L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. On l'écoute.
Il y a tout un ensemble de responsabilités. Justement, donc je parle quand même de l'usine dans le livre, du fait qu'il a eu cet accident à l'usine qui l'a détruit. Mon père, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu voyager. Mon père, c'est quelqu'un qui a jamais eu accès aux livres, qui n'a jamais eu accès à la culture scolaire. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui, quand ils commettent un acte violent, sont plus responsables que d'autres. Et c'est de ces gens-là dont j'ai voulu parler. Et vous parliez du passage du RMI au RSA, ça a été quelque chose de très important, de très violent dans les classes populaires. C'est-à-dire, le gouvernement disait, on va pousser, encourager les gens à retourner au travail. En fait, ça voulait dire les forcer à retourner au travail, coûte que coûte. Un peu comme dans le film de Ken Loach, Daniel Blake, où on dit à un homme qui est malade du cœur, soit vous retournez au travail, soit on vous coupe vos allocations qui vous permettent de survivre. Donc en gros, c'est soit vous retournez au travail et vous mourrez au travail parce que vous n'avez pas la santé, ou soit vous refusez d'y aller et vous mourrez parce qu'on vous coupe les allocations. Et donc en gros, ce qu'on propose aux classes populaires, c'est mourir ou mourir.
Un extrait d'un entretien réalisé par Mediapart. Grégory Pontière, que vous inspire ces propos d'Edouard Louis ?
Oui, mais on se rend compte effectivement de toute la violence qui peut être présente dans notre société, derrière finalement voilà des contrats de travail, des conventions, effectivement au final on peut se retrouver avec le choix dont il a parlé, c'est-à-dire mourir ou mourir, effectivement. Donc ça interpelle évidemment ce genre de témoignage. Donc vous avez raison, cette question de la mortalité différentielle, cette question de l'inégalité des hommes face à la mort, c'est pas juste une question de statistiques, c'est que derrière tout cela, il y a effectivement des vies brisées, des projets de vie auxquels on doit renoncer, quand il nous dit voilà, son père n'a jamais pu voyager. Je crois qu'effectivement, ce sont des choses assez terribles. Et donc effectivement, oui, et ça nous motive effectivement en tant que chercheurs pour construire des statistiques, regarder, c'est de comprendre les choses, parce qu'au final, ce sont des hommes qui sont derrière, et c'est évidemment d'eux dont on doit s'occuper. Normalement, la science économique, elle est au service de la société et doit essayer de résoudre ces problèmes, oui.
De la chanteuse Fishback sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Grégory Pontière pour parler des inégalités face à la mort. Alors avant d'aller voir du côté des pouvoirs publics, quelle est la responsabilité de l'économie de marché dans le système capitaliste? L'ouvrier vend sa force de travail parce que c'est le seul moyen qu'il a de survivre. Voilà ce qu'écrit Karl Marx dans ses manuscrits de 1844, extrait.
Le salaire est déterminé par la lutte ouverte entre capitalistes et ouvriers. En outre, le propriétaire foncier et le capitaliste peuvent ajouter à leurs revenus des avantages industriels. L'ouvrier ne peut ajouter à son revenu industriel ni rente foncière, ni intérêts de capitaux. C'est pourquoi la concurrence est si grande entre les ouvriers. C'est donc pour l'ouvrier seul que la séparation du capital, de la propriété foncière et du travail est une séparation nécessaire, essentielle et nuisible. Le capital et la propriété foncière peuvent ne pas rester dans les limites de cette abstraction, mais le travail de l'ouvrier ne peut en sortir. Donc, pour l'ouvrier, la séparation du capital, de la rente foncière et du travail est mortelle. Le taux minimum est le seul nécessaire pour le salaire et la subsistance de l'ouvrier pendant le travail. Et l'excédent nécessaire pour pouvoir nourrir une famille et pour que la race des ouvriers ne s'éteigne pas. Le salaire ordinaire est, d'après Smith, le plus bas qui soit compatible avec la simple humanité, c'est-à-dire avec une existence de bête.
Grégory Pontière, quelle est la réflexion que Marx apporte au sujet du lien entre travail et mort ?
On retrouve effectivement chez Marx dans ses manuscrits de 1844, donc ce qu'on appelle aussi la première critique de l'économie politique, on y trouve une critique effectivement de la théorie du salaire de subsistance qu'Adam Smith développe dans ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. publié en 1776. Alors, je vais peut-être dire quelques mots sur ces théories de salaire de subsistance de Smith.
Bien sûr.
Elle est un peu abordée dans l'extrait. Et puis, surtout, je vais peut-être en dire ce que Marx en pensait. Donc, chez Smith, comme chez la plupart des auteurs classiques, on a toujours un double système de prix et de salaire. Il y a les prix et les salaires de marché d'un côté, qui sont ceux qu'on observe. Et puis, on a à côté de ça les prix et les salaires naturels. Alors, Cantillon appelait ça la valeur intrinsèque, Quesnay appelait ça la valeur fondamentale. Bon, Smith, il parle de prix naturel. C'est vrai que c'est une expression qu'on retrouve aussi chez Ricardo et chez d'autres. Et donc, le niveau naturel du salaire, alors je me dis naturel entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans, évidemment. Hein, c'est lié au fonctionnement de l'économie, mais c'est pas du tout naturel. Il était fixé à un niveau qui correspondait donc à un salaire de subsistance. C'est-à-dire, comme c'est bien expliqué dans les extrême, ce qui permettait à l'ouvrier, au travailleur de survivre, également à sa famille de survivre, pour assurer comme ça à la génération suivante un remplacement de ce travailleur par d'autres travailleurs.
Alors que ce que dit Marx, c'est qu'il n'y a rien de naturel là-dedans, c'est que c'est un choix, ce fait de fixer le salaire.
Mais disons que ce salaire de subsistance, en fait, il pose toute une série de problèmes et Smith, dans La richesse des nations, nous explique en fait qu'il existe un mécanisme d'ajustement du salaire de marché qui tend à converger vers ce salaire naturel. Mais le problème, c'est les mécanismes d'ajustement auxquels Smith fait allusion. Donc Smith nous dit, lorsque l'économie est en boom, il y a une hausse de la demande de travail, et donc le salaire de marché passe au-dessus du salaire de subsistance, et donc à ce moment-là, les familles deviennent plus importantes et la taille de la population augmente. Mais le problème, c'est lorsqu'il y a une crise économique, là, la demande de travail faiblit, et donc le salaire de marché va passer sous le salaire de subsistance, et donc ce qui va en résulter, c'est ce que Malthus appelait les corrections positives, c'est-à-dire des décès, et donc une contraction de la taille de la population. Et dans l'esprit de Smith, voilà, Smith nous dit carrément que dans l'économie capitaliste, la survie et on va dire l'offre de travail, hein, ou la survie des travailleurs, va dépendre de la demande de travail, comme pour toutes les marchandises. Et c'est ça précisément qui va révolter Marx, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle la survie des hommes dépend de la demande de travail, comme si les hommes étaient des marchandises, c'est une idée qui est assez insupportable.
C'est une idée que dénonce Marx, mais dont on est peut-être encore héritier aujourd'hui. Je pense en particulier à l'impact de la pénibilité au travail sur la durée de vie, une pénibilité qui prend de nouvelles formes aujourd'hui, Grégory Pontière, avec les mutations du monde du travail.
Il est clair en tous les cas que cette critique de Marx a une certaine résonance dans la société d'aujourd'hui. Alors on a vu donc tout à l'heure des inégalités importantes d'espérance de vie en termes de revenus. Alors vous avez parlé aussi des écarts d'espérance de vie selon l'activité socio-professionnelle, donc les accidents du travail, les conditions de travail, etc. Donc on voit effectivement qu'il y a une résonance effectivement de cette critique de l'économie telle que Smith l'a développée. Alors évidemment, Smith développait une présentation de l'économie de marché au XVIIIe siècle.
Dans ses balbutiements.
On n'avait pas d'État-providence, on n'avait pas d'assurance chômage, on n'avait pas d'assurance vieillesse, donc il faut bien comprendre un peu, on avait juste les poor laws en Angleterre, et justement Smith était opposé aux poor laws, tout comme Malthus, etc. Donc on était très loin de l'État-providence contemporain.
Alors justement, Grégory Pontière, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics? Est-ce que vous diriez que l'État-providence n'a pas tout à fait rempli ses promesses?
J'ai envie de dire que l'État-providence fait beaucoup, et je crois qu'il faut le défendre et le renforcer, hein, surtout à l'heure actuelle où finalement, pour des populistes de droite, c'est très facile de dire voilà, il faut baisser les impôts, il faut essayer de faire des économies, etc. Le problème, c'est que effectivement, ce faisant, on risque de renforcer et de faire perdurer, même d'amplifier, hein, les inégalités l'égalité des hommes face à la mort. Et donc, moi, je n'ai pas envie qu'on revienne au système que Smith décrit, où on a un salaire de subsistance comme ça, et selon qu'il y a une demande qui est importante ou pas, les hommes peuvent survivre ou pas.
Mmh, mais le principe de l'État-providence est essentiel, mais est-ce qu'il n'y a pas une démarche qui peut être critiquée, une démarche de l'État-providence qui serait trop utilitariste? Et là, on peut peut-être convoquer Jérémy Bentham, Grégory Pontière.
Alors c'est vrai que alors les rapports de l'État-providence avec l'utilitarisme, ce sont des rapports assez compliqués, mais effectivement il y a au sein de l'État-providence toute une série de politiques qui peuvent être rapprochées de cette doctrine utilitariste. Alors, je voudrais peut-être dire quelques mots sur la doctrine utilitariste pour nos auditeurs.
Je vous en prie, oui.
Donc c'est vrai que cette doctrine est apparue à la fin du XVIIIe siècle, hein, donc les travaux de Jeremy Bentham, donc notamment l'introduction au principe de la morale et de la législation, hein, donc publié en 1789. Donc dans cet ouvrage, Bentham propose finalement de reconstruire une nouvelle société autour d'un seul principe, donc ce qu'il appelait le principe d'utilité, donc en gros le principe du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et donc pour Bentham, une société doit être construite, ses institutions doivent être construites pour passer ce test d'utilité. Donc il s'agit de conduire à l'utilité sociale la plus grande.
Et si on adapte ce principe à l'État-providence, ça veut dire que par exemple on va donner plus d'argent à ceux qui vivent plus longtemps parce que c'est plus logique, on a un principe utilitariste là-dedans, Grégory Pontière?
Malheureusement, sous certaines hypothèses, c'est effectivement ce qui se passe et c'est un gros problème pour la doctrine utilitariste. Donc effectivement, si on suppose que le bien-être, ou on va dire l'utilité d'un individu sur sa vie est la somme de l'utilité à chacune des périodes de sa vie, eh bien effectivement, d'un point de vue purement utilitariste, on va vouloir allouer les ressources pour égaliser l'utilité marginale par personne et par période. Alors, c'est un peu technique, mais c'est ça, l'utilitarisme, c'est un grand calcul des plaisirs et des peines. Donc, c'est pas du tout les plaisirs considérés par Épicure, où là, c'était la qualité qui importait, c'était pas avoir la vie la plus longue ou consommer le plus. Donc, d'un point de vue utilitariste, on va quantifier tout ça, regarder la quantité d'utilité. Et effectivement, si on veut maximiser la quantité totale d'utilité, simplement en additionnant comme ça ces utilités sur toutes les vies, toutes les personnes, on va organiser des transferts des personnes qui vivent peu vers les personnes qui vivent plus longtemps. Et ça, c'est effectivement un grand problème. Et c'est vraiment un problème pour la doctrine utilitariste. Ça montre en fait une incapacité à prendre en compte une source d'hétérogénéité fondamentale entre les hommes. Alors évidemment, bon, je ne dis pas qu'on peut tenir Bentham responsable de cela, parce que en un sens, l'utilitarisme était aussi un progrès très important pour l'émancipation des sociétés, parce que il s'érigeait contre les privilèges, il s'érigeait contre beaucoup de choses. Il y a des utilitaristes comme John Stuart Mill ont défendu le vote des femmes dès 1850. Donc je veux dire, il y avait un mouvement progressiste aussi au sein de l'utilitarisme.
Mais c'est un mouvement à dépasser aujourd'hui.
Certainement. En tout cas, si on considère les questions d'inégalité de durée de vie, j'ai l'impression qu'effectivement, la doctrine utilitariste présente toute une série de limites. Oui.
Je voudrais vous faire entendre maintenant, Grégory Pontière, le sociologue et médecin Didier Fassin, qui a prononcé la semaine dernière sa leçon inaugurale au Collège de France, leçon intitulée « L'inégalité des vies ». On l'écoute.
La différence entre valeur absolue et valeur relative de la vie explique certaines des tensions existant d'ailleurs entre médecine clinique et santé publique, la première ayant affaire à des individus avec pour mission de sauver des vies ou de maintenir en vie littéralement à tout prix. Quand la seconde prend en charge des populations avec l'obligation de faire des choix entre des stratégies pour lesquelles les rapports coût-bénéfice diffèrent. De cette différence, Thomas Schelling donne une illustration saisissante et à peine imaginaire lorsqu'il compare la réaction du public sollicité d'un côté pour financer l'intervention chirurgicale onéreuse permettant de prolonger la vie d'une petite fille jusqu'à Noël, et de l'autre, pour contribuer par une taxe spéciale à la réhabilitation des hôpitaux du Massachusetts afin de réduire le nombre de décès évitables. Sans aucun doute, conclut-il, les dons afflueront dans le premier cas, tandis que dans le second, il n'y aura que résistance.
Grégory Pontière, quelles sont les conséquences de cet écart entre la logique de la médecine et celle de la santé publique? Écart mis en valeur ici par Didier Fassin.
Oui, donc c'est un extrait très intéressant en ce qui concerne surtout la réaction du public. hein, face à ces deux options, donc de sauver jusqu'à Doël cette petite fille clairement identifiée, ou au contraire d'investir dans la réhabilitation des hôpitaux. C'est vrai que cet exemple de Thomas Schilling pose toute une série de questions et montre finalement la grande difficulté auxquelles sont confrontés les hommes lorsqu'ils font face à des arbitrages sur les questions de vie et de mort. C'est vrai aussi pour des tas d'autres domaines. Et ça nécessite effectivement un état-providence qui, lui, ne soit pas aveuglé par des problèmes de myopie ou par des problèmes, je vais pas dire d'irrationalité, mais...
C'est pour ça qu'il est si difficile de mettre en place des politiques de santé publique égalitaires. L'OMS a rendu un rapport en septembre qui estime que les progrès pour remédier aux inégalités en matière de santé sont au point mort en Europe.
Oui, c'est vrai que... Il y a tout un travail sans doute à faire et le moins qu'on puisse dire c'est que les travaux d'Éric Fassin y contribuent et donnent souligne toute l'importance de cette question. Et c'est vrai que je l'ai entendu l'autre jour. C'est très très important de mettre en valeur cette ressource qu'est la vie et de souligner tous les paradoxes de nos sociétés. Effectivement, il est très important qu'on fasse encore des progrès dans la production de cette ressource et dans sa répartition. Et notamment l'intervention de Didier Fassin auprès des migrants, des populations qui sont mises de côté, etc. Et du point de vue de rendre plus d'égalité face à la vie, c'est vraiment une intervention fondamentale, au-delà de ses écrits.
Réfléchir à la fin de vie, c'est aussi réfléchir à la jeunesse et au poids qui doit être supporté par les plus jeunes. Or, la fracture entre les générations semble s'accentuer. Monsieur le Président, depuis combien de décennies les dirigeants du monde ont-ils vu et su ce qui allait arriver, mais ont décidé qu'il était plus opportun politiquement de le garder derrière des portes closes? Ma génération et les générations suivantes n'ont pas ce luxe. En 2050, j'aurai 56 ans. Pourtant, la moyenne d'âge de ce 52e Parlement est de 49 ans. Ok, Boomer. Les institutions politiques actuelles se sont montrées incompétentes pour penser au-delà d'un horizon politique de court terme. Le changement est si rigidement sacrifié au profit du pouvoir. Les slogans sont faciles, mais ce genre de choses, cette action, est difficile. Le changement climatique ne peut plus être sacrifié pour des raisons de commodité politique.
La députée néo-zélandaise Chloé Swarbrick adressant un hockey boomer à un député plus âgé qui cherchait à l'interrompre. Alors que traduit selon vous le succès de cette expression hockey boomer qui a fait florès sur les réseaux sociaux et au-delà, quelle serait la solution? Est-ce qu'il ne faut pas s'adresser davantage à la jeunesse pour compenser ces inégalités face à la mort, Grégory Pontière?
Alors effectivement, il y aurait beaucoup de choses... Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'on se rend compte à ce moment-là, lorsqu'on aborde la question du changement climatique, la question de la pollution, et de tout ce qui est fait dans la mauvaise direction, on se rend compte effectivement que les questions de vie ou de mort, de la rareté de cette ressource qu'est la vie, c'est finalement une question transversale parce qu'elle touche à beaucoup de choses. Et lorsqu'on veut évaluer l'ampleur des dommages liés au réchauffement climatique ou l'ampleur des dommages liés aux pollutions, mais évidemment, la question du temps de vie et de tous les dangers qui sont posés par ces évolutions sur cette ressource-là, ça pose évidemment, ça doit absolument être pris en compte.
Votre proposition, Grégory Pontière, c'est la retraite inversée, c'est-à-dire que c'est une sorte de revenu universel qu'il faudrait verser aux jeunes pour justement prévenir les inégalités face à la mort.
Alors oui, alors il faut peut-être que j'explique ça un peu plus longuement. Donc effectivement, face à la mort, finalement, il y a deux types de politiques qui sont possibles. Il y a des politiques publiques, on va dire, de prévalence, qui vont réduire le nombre de personnes qui décèdent prématurément. Alors les politiques environnementales, évidemment, vont dans cette direction-là, puisque en luttant contre la pollution, on peut évidemment sauver des vies. Les politiques de santé publique dont on a parlé, les politiques de sécurité routière, bon, tout ça contribue à réduire le nombre de décès prématurés. Et ce faisant, ça contribue à déjà lutter contre les inégalités en matière de durée de vie. Mais ces politiques de prévalence, c'est pas la seule chose que l'on peut faire. En fait, il y a aussi ce qu'on appelle des politiques de dommages, qui ne vont pas réduire le nombre de personnes qui décèdent prématurément, mais qui vont réduire la taille des dommages qui sont causés par ces décès prématurés. Alors ça, ça peut interroger peut-être l'auditeur. Comment est-ce qu'on peut réduire le dommage qui est dû à une vie plus courte?
Sachant qu'il est difficile de savoir qui va avoir une vie plus courte, même si on a des paramètres globaux comme les catégories sociales, mais au niveau individuel, on ne peut pas savoir qui va vivre plus ou moins longtemps.
Exactement, donc c'est vraiment le problème, c'est que exempté, c'est-à-dire avant que les durées de vie individuelles ne soient connues, personne ne sait qui va vivre longtemps et qui vivra moins longtemps. Alors bien sûr, on a des données au niveau statistique sur certaines catégories sociales, mais à l'intérieur des catégories, on aura encore une hétérogénéité assez importante dans les durées de vie effectives. Alors le problème, c'est que ex post, une fois qu'on connaît les durées de vie, mais il est trop tard pour intervenir. Une fois qu'un décès prématuré a eu lieu, on peut plus. Alors voilà, si on va au cimetière apporter des fleurs, bon, très bien, mais c'est pas ça qui va améliorer la situation de la personne qui est décédée prématurément.
Il faut agir dès la jeunesse.
Et bien exactement. C'est-à-dire que même si exempté, on peut pas identifier les personnes qui décèdent prématurément, et même si ex post, il est trop tard pour faire quelque chose, l'État providence peut néanmoins, par certaines interventions, par des politiques de dommages, essayer de réduire la taille des dommages pour les personnes qui vont finalement décéder prématurément. Et il y a une manière très simple d'arriver à cela, c'est tout simplement de transférer les bonnes choses de la vie au début de la vie, donc aux jeunes âges de la vie, et puis les moins bonnes choses de la vie, les choses, on va dire, plus mauvaises, essayer de les reporter à des âges plus élevés.
Donc les gens ne vivront pas plus longtemps, mais ils profiteront davantage de la vie.
Évidemment, il faut combiner les politiques de prévention, les politiques de prévalence et les politiques de dommage. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut uniquement faire l'une ou l'autre. Cependant, ces politiques de dommage, souvent, ne sont pas vraiment pensées, parce qu'on pense a priori, comme on ne peut pas identifier les personnes qui décèdent prématurément, on pense qu'on ne pourra rien faire pour elles. Et en fait, ce n'est pas vrai. Si on transfère massivement donc, les ressources, consommation, loisirs, etc., les bonnes choses de la vie, au début de la vie, donc vers les jeunes âges, eh bien, on va améliorer la situation des jeunes, et ce faisant, on va aussi améliorer la situation des personnes qui finalement décéderont prématurément et qui n'auront eu que cela comme vie.
Et donc concrètement, ça passe par un revenu universel qui est du coup adressé dès un certain âge.
C'est ce que j'appelle, oui, j'appelle ça la retraite inversée, c'est un peu par provocation. C'est-à-dire que la retraite classique, c'est voilà, il faut travailler 40 ans et puis on a droit à quelque chose, une petite pension de retraite. Et bien la retraite inversée, c'est finalement introduire une dose. Alors j'ai pas inversé complètement la chose. Bon, l'objectif, c'est pas d'envoyer à la mine des gens de 80 ans, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'introduire une certaine dose d'inversion dans les retraites, c'est-à-dire, effectivement, pour les 18-21 ans, et puis pour après les 21-25 ans peut-être, et en fonction des contraintes économiques qui sont imposées par la structure des âges, par les liens entre productivité et âge, et par aussi la pénibilité du travail, donc toutes ces contraintes-là doivent être prises en compte, mais effectivement, on peut imaginer un mécanisme de retraite partiellement inversé, où on pourrait donner une pension de retraite effectivement aux 18-25 ans, ce qui pourrait leur permettre à la fois soit d'étudier, soit d'investir dans d'autres domaines de la vie, soit tout simplement trouver leur place dans la vie. Et ce serait, si vous voulez, une manière, une sorte d'assurance contre une vie courte. Donc les retraites actuelles, bon, moi j'ai envie un peu de renvoyer dos à dos le système de retraite actuel et le système par points universels qu'on propose comme réforme. Je crois que du point de vue de l'inégalité face à la mort, ils sont également injustes tous les deux. Ce sont des assurances contre des vies longues. Et donc je comprends qu'on essaie d'éviter une situation de pauvreté aux âges élevés, d'accord ? Mais à côté de ça, il faudrait aussi penser à une assurance contre une vie courte.
Alors justement, on arrive au terme de cette émission, Grégory Pontière. Est-ce que vous ne diriez pas tout de même que cette question des inégalités face à la mort est de plus en plus présente dans le débat public ? C'est un sujet qui intéresse de plus en plus les chercheurs et notamment les économistes ?
Je dirais qu'on a vu avec l'épisode donc qui n'est pas terminé de la réforme des retraites qu'il y a des demandes de justice très importantes dans la population et une demande de justice très forte pour la question de l'âge de départ à la retraite, pour la question du niveau des retraites, et même des demandes de justice plus générales. Et c'est vrai que face à toutes ces demandes, il faut sans doute repenser l'État-providence et le renforcer. Alors pas pour remplacer les retraites existantes par uniquement de la retraite inversée, mais je crois que ça peut être utile d'inclure certains éléments d'inversion des retraites pour penser aussi à une assurance contre une vie courte et pas juste une assurance contre une vie longue.
Repenser l'État-providence, ce sera le mot de la fin. Un grand merci Grégory Pontière.
Merci à vous.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Les États-Unis et l'Europe très proches d'un accord sur la taxe numérique. C'est le ministre Bruno Le Maire qui l'affirme ce matin. Après les menaces économiques, c'est l'apaisement, mais le consensus mondial sera difficile à trouver.
Et oui, on en parlait hier, c'est une sorte de pacte de non-agression dont a convenu Paris avec Washington. Report de la perception de la taxe française de 3% sur les entreprises numériques d'un côté, contre suspension de la menace de surtaxe américaine sur 2,4 milliards d'euros de produits français. Les deux protagonistes retiennent leur coup et c'est donc maintenant que les négociations vont vraiment commencer pour aboutir à un consensus au sein de l'OCDE. Or, sans accord d'ici la fin de l'année, l'Union européenne a aussi menacé récemment de mettre en place sa propre taxe. L'Italie et le Royaume-Uni, eux, préparent la leur et les États-Unis menacent, eux, de relancer la guerre économique. Et les positions pour y parvenir sont très divergentes. Qui serait taxé? Les GAFA, les autres, à quelle hauteur? 3%, 2%? Et à qui seraient redistribués les revenus au sein des 134 pays de l'OCDE? Écoutez ce qu'en dit Vincent Vicard, il est chercheur sur ce sujet justement au CEPI.
Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il n'y a pas que la France et les États-Unis qui poussent pour une réforme de système de taxation internationale. Il y a aussi un certain nombre de pays, et notamment l'Inde, qui a fait des propositions assez fondamentales sur des projets de réforme du système. Donc voilà, même un accord entre la France et les États-Unis ne voudrait pas dire accord au sein de l'OCDE sur un nouveau système. Et surtout, on a bien vu du côté américain un retour en arrière assez brutal en novembre-décembre avec une demande que ce nouveau système soit optionnel. Donc voilà, il faut prendre avec prudence ces annonces. Et il y a beaucoup d'avancées à faire et de précisions à donner sur le projet de l'OCDE qui est sur la table. En tout cas, si on cherche une solution consensuelle, il y a eu des propositions déjà sur un premier pilier qui viserait à taxer les entreprises multinationales au niveau global pour une partie de leur activité et seulement pour certaines industries. Et donc on voit que si on cherche une solution qui convient à tout le monde, eh bien on réduit au plus petit dénominateur commun et aujourd'hui on est dans une situation où la proposition de l'OCDE sur ce premier pilier concerne finalement assez peu d'entreprises et réalloue assez peu de droits taxés entre les pays. Effectivement, d'une certaine manière, l'objectif pour pouvoir arriver à un consensus et avoir un premier pas. Donc ça pose la question de est-ce que ce premier pas est suffisant et est-ce que ce premier pas n'apporte pas trop de complications pour pouvoir aller plus loin.
D'autant que la taxe sur le numérique n'est que la partie émergée d'un autre problème à traiter pour les États, un accord mondial anti-évasion fiscale.
Oui, donc ce serait une première, là, cet accord dans l'histoire économique. Il s'agirait de taxer non plus seulement les entreprises du numérique, mais les multinationales sur leur marché réel et non uniquement sur les revenus déclarés. En fait, les entreprises du numérique seraient un prototype pour ce type d'accord. Le deuxième pilier à construire serait donc celui de cette taxation minimale entre les pays. L'OCDE a proposé 12% au niveau mondial, mais c'est en dessous du niveau général. Tout le monde a théoriquement jusqu'à la fin de l'année, donc avant la reprise des hostilités.
On passe au bref avec une réunion très attendue de la BCE aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne et discours encore plus attendu de sa présidente Christine Lagarde en ce moment. Enjeu, les taux négatifs bien sûr. Jusqu'où est-ce qu'on va aller, Xavier ?
Eh bien, en tout cas, ce sont des risques conjoncturels moins prononcés. Ce sont les paroles de Christine Lagarde en ce moment même à la BCE. Mais en tout cas, rien ne change. Les taux restent à moins 0,5% jusqu'à ce que l'inflation en zone euro approche les 2%. Mais ce qui est le plus attendu dans cette revue stratégique, ce sont les commentaires et décisions, notamment sur la manière de lier les taux à la cible d'inflation de 2%. Quant au fameux quantitative easing, le rachat de dettes d'État par la BCE, il se poursuit mais pourrait être amené à se verdir. La nouvelle présidente, elle, a déjà su rétablir le consensus au sein du Conseil des gouverneurs, à suivre donc pour sa politique économique.
Et pour finir, les Luanda Leaks font des remous. Ce scandale de corruption autour de la fille de l'ancien président Dos Santos retentit sur la finance mondiale et il vient de faire son premier mort.
Oui, c'est le gestionnaire attitré de Isabel dos Santos auprès d'une banque portugaise Eurobic, un suicide, alors que cette banque est mouillée avec beaucoup d'institutions portugaises et internationales dans l'évaporation par détournement de fonds publics de plus d'$1 milliard par la fille de l'ancien président dos Santos. Beaucoup d'institutions dont les quatre Big Four, les quatre grands cabinets d'audit mondiaux, KPMG, EY, Deloitte et PricewaterhouseCoopers, dont le directeur angolais avait lui-même dû démissionner il y a quelques jours.
Merci Xavier, et à demain. On vous retrouve lundi, Xavier, pour un nouveau journal de l'Écho. Un grand merci, Grégory Pontière, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'Écho, Marguerite Caton, Paloma Seria Brown, Alia Tovin et Alain de Raucourt, à la réalisation Anne Depelchin, à la technique aujourd'hui Audrey Guélil. Demain, le nouveau virus apparu dans l'Empire du Milieu va-t-il contaminer l'économie chinoise? On posera la question à Karine Milsan, Jean-Louis Roca et Marie-Françoise Renard. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. On vous attend aussi sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'Écho.